VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 25 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Sénégal, le frère du président Macky Sall démissionne de la tête d'une importante institution financière, 3 semaines après un reportage compromettant de la BBC.
En Mauritanie, l'opposition continue de contester la victoire du candidat du pouvoir, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, à la présidentielle de samedi, mais elle appelle au calme.
Au Mali, la MINUSMA a renforcé hier sa présence dans le centre du pays, en proie à une escalade des attaques djihadistes et des violences intercommunautaires.
Les évêques centrafricains ont dénoncé dans un communiqué publié hier l'hypocrisie qui caractérise la signature des différents accords de paix dans ce pays.
Au Niger, les élus de l'opposition ont déposé une motion de censure contre le gouvernement de Brigui Raffini en poste depuis 2011.
Ici à Washington, le président Donald Trump a annoncé hier des sanctions contre le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, et plusieurs hauts gradés des gardiens de la révolution.
Et en sport, ne manquez pas notre journal de la CAN.
Pour l'instant, le journal.
Au Sénégal, le frère du président Macky Sall a annoncé sa démission de la Caisse des dépôts et consignations, institution financière qu'il dirigeait depuis 2017. Aliou Sall a été épinglé il y a 3 semaines dans un reportage de la BBC sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans sa lettre de démission, Aliou Sall a indiqué que cette controverse visait en fait son frère. Il devait lire sa lettre de démission devant la presse, mais en a été empêché par des sympathisants qui s'opposaient à sa démission. En juin 2012, peu après sa première élection, le président Macky Sall avait confirmé la décision de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, d'attribuer l'exploitation des 2 champs pétroliers et gaziers offshore à PetroTim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timmis. Dans un reportage diffusé le 3 juin, la BBC a affirmé qu'Aliou Sall avait reçu en 2014 une prime secrète de $250,000 de la part du groupe Timmis qui l'aurait engagé après l'arrivée de son frère au pouvoir pour un salaire de $25,000 par mois. Aliou Sall a formellement démenti avoir reçu cette prime. Les autorités sénégalaises ont ouvert une information judiciaire.
En Mauritanie, les 4 rivaux du candidat du pouvoir à la présidentielle de samedi dernier, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, rejettent les résultats provisoires donnant la victoire dès le premier tour à l'ancien général. Mais ils ont reporté une manifestation prévue hier et appelé au calme, après avoir promis d'utiliser tous les moyens légaux pour contester ces résultats.
Au Mali, la MINUSMA a renforcé hier sa présence dans le centre du pays, une région qui connaît depuis plusieurs mois une escalade des attaques djihadistes et des violences intercommunautaires entre Peul et Dogon en particulier. Elle a inauguré un nouveau secteur centre pour, je cite, permettre une meilleure coordination avec les forces armées maliennes et mieux protéger les civils et favoriser le retour de l'autorité de l'État et de l'État de droit dans la région.
Au Niger, un groupe de députés de l'opposition a déposé une motion de censure contre le gouvernement de Brigui Raffini, dénonçant sa conduite des affaires, notamment sur le plan sécuritaire. L'équipe de M. Raffini est en poste depuis 2011. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la discussion et le vote de la motion de censure interviennent 48 heures après son dépôt. Le Premier ministre et son gouvernement mettent à profit ce temps pour préparer leur réponse aux griefs portés à leur encontre par les déposants. Griefs qui, pour le cas d'espèce, sont nombreux et évidents selon Issoufou Issaka, député du Modène FA, le principal parti de l'opposition.
Le gouvernement a montré son incapacité à assurer la sécurité dans notre pays. Chaque jour que Dieu fait, c'est des morts qu'on dénombre aussi bien dans les populations civiles que dans les rangs des FDS. Notre pays enregistre des baisses notables des indicateurs de performance. En atteste le classement peu enviable de notre pays au rang d'éternel dernier de la planète en termes d'indice de développement humain. Nous disons trop, c'est trop.
Le texte de la motion a été signé par 35 parlementaires, tous de l'opposition, un chiffre qui est très loin de la majorité d'au moins 85 députés nécessaires pour le faire passer. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, l'Église catholique dresse un bilan mitigé de la situation dans le pays. À l'issue de leur assemblée générale le 23 juin à Bosangoa, les évêques de Centrafrique ont dénoncé la poursuite des violences malgré la signature de l'accord du 6 février entre le gouvernement et les groupes armés. De Bangui, correspondance de Freeman Sipila.
Dans un document de 9 pages, les évêques de Centrafrique ont dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire du pays, malgré l'accord de paix signé en février dernier entre le gouvernement et les groupes armés. Même si les prélats notent la volonté de Bangui à restaurer la paix en redéployant l'armée nationale dans certaines régions, ils mentionnent que ces militaires sont souvent versés dans la pratique des barrières illégales et de la quête des paisibles citoyens. Le document n'a pas été tendre aux groupes armés que l'Église catholique accuse de non-respect de l'accord de paix signé avec le gouvernement et de violences sur des civils et des religieux. Le peuple est fatigué par l'hypocrisie qui caractérise la signature des différents accords qui ont eu lieu dans ce pays, ont dénoncé les évêques. L'assassinat de la religieuse franco-espagnole Inés Sancho à Nola, dans l'Ouest, est aussi évoqué, demandant que lumière soit faite sur ce crime. Les prélats ont par ailleurs mis l'accent sur l'exploitation anarchique des ressources naturelles du pays qui ne profite pas aux populations. Ils attirent l'attention des autorités centrafricaines sur la naissance des milices proches du pouvoir et des conséquences qui pourraient en découler. Enfin, ils demandent à la communauté internationale de faire pression sur les groupes armés afin que ceux-ci respectent leurs engagements. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont annoncé hier des sanctions supplémentaires contre l'Iran et le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, et plusieurs hauts gradés des gardiens de la révolution. Le point avec Irénée Herman Ungo.
Le président américain Donald Trump a signé un décret empêchant, selon lui, le guide suprême iranien, son équipe et d'autres qui lui sont étroitement liés d'avoir accès à des ressources financières essentielles. 8 responsables des gardiens de la révolution sont aussi sanctionnés 4 jours après la destruction d'un drone américain par un missile iranien dans la région du Golfe. Le secrétaire américain au trésor Steven Mnuchin promet de geler des milliards de dollars d'actifs iraniens supplémentaires sans autre précision. Avant l'annonce de ces mesures, l'Iran avait dit qu'elle n'aurait aucun résultat. Les États-Unis ont rétabli depuis août 2018 une série de sanctions économiques contre Téhéran. Et de nouvelles frictions sont à prévoir avec l'annonce par l'Iran de l'enrichissement de son uranium qui va dépasser à partir du 27 juin la limite prévue par l'accord de Vienne.
Et le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussaoui, a déclaré aujourd'hui sur Twitter, je cite, « Imposer des sanctions stériles contre le guide suprême de l'Iran et le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, c'est fermer de façon permanente la voie de la diplomatie avec le gouvernement prêt à tout de Trump. » Fin de citation.
Une conférence économique co-organisée par les États-Unis démarre ce mardi à Bahreïn afin de mobiliser plus de 50 milliards de dollars pour les Palestiniens pour de grands projets d'infrastructure, l'éducation, le tourisme et le commerce. Cette initiative a été déjà rejetée par les intéressés en l'absence d'un règlement politique du conflit avec Israël. Cette rencontre intitulée « De la paix à la prospérité » est le volet économique d'un plan de paix israélo-palestinien élaboré par Jared Kushner, gendre et conseiller du président Donald Trump. Bahreïn est incité avec d'autres États arabes du Golfe à faire cause commune avec Israël en raison d'une hostilité partagée pour l'Iran.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la Cannes avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal de la Cannes. Les derniers matchs de la première journée se jouent ce soir et c'est le groupe F qui entre en compétition. Dans la première rencontre, les Lions indomptables du Cameroun feront face au Bissau-Guinée à 17h temps universel. Dans son coup de sifflet, Jules Valentin Ngoué passe en revue l'effectif des champions sortants camerounais depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Les derniers matchs de la première journée de phase de groupe s'achèvent ce mardi avec l'entrée en lice du champion en titre, le Cameroun, très attendu si on en croit l'engouement particulier qui accompagnait l'arrivée tardive des Lions indomptables à Ismaili. samedi dans une ambiance de revanche à prendre pour le pays hôte. Alors, sur le plan strictement sportif, que nous réserve le champion d'Afrique? Cette équipe en pleine phase de reconstruction, mais qui a gagné la coupe plus tôt que prévu il y a 2 ans, a poursuivi sa mue en étoffant son effectif et en équilibrant son jeu au profit de l'animation offensive, surtout que son statut initial d'équipe qualifiée d'office a permis au sélectionneur Sidor d'effectuer un turnover permanent. Alors, les changements défensifs sont moins nombreux. Dans les buts, la saine concurrence entre le portier d'Ajax Onana et le chouchou du public hondois tourne pour l'instant à l'avantage du demi-finaliste de la Ligue européenne des champions sous l'œil attentif du vétéran Kameni. La défense, point fort de l'équipe, a pu changer aussi. Seul le non-retour de la tour centrale de Liverpool, Joël Matip, et la baisse de forme du Sochalien Tirque ont favorisé l'intrusion de Yaya Banana. Le milieu trop défensif en 2007 a enregistré l'arrivée de Koundé Malon et de Kaptoum à vocation plus offensive, ce qui permettra de mettre les virevoltants Bassogo, Toko et Kambi, Choupo-Moting, le nouveau leader, dans des conditions plus favorables. Le match de préparation probant contre le Brésil et la large victoire face aux Comores dans le match de qualification qu'il ne fallait pas rater sont là pour prouver que la mayonnaise a pris contre la Guinée-Bissau qu'ils connaissent bien pour l'avoir difficilement écarté à Libreville en match de poule. Les Camerounais se rappelleront que son effectif est plus expérimenté actuellement et que le jeune Piketty, qui leur avait marqué le plus beau but de la CAN, est toujours présent. Alors, comme dit l'adage, un homme averti en vaut deux. À bientôt.
Dans le deuxième rendez-vous, les écureuils du Bénin joueront contre les Black Stars du Ghana. Les Béninois sont optimistes et croient que leurs représentants peuvent jouer un bon coup face aux habitués ghanéens. C'est ce qui ressort du reportage d'avant-match de notre correspondant à Boïkon au Bénin, Élisée Mpatine.
Après avoir connu de bons résultats lors de sa préparation, le Bénin joue gros d'entrée contre le Ghana. Le fait marquant de ce match important pour les écureuils sera l'absence de leur maître à jouer capitaine, Stéphane Sessayon, pour cause de suspension. Mais comptant sur le collectif, l'état d'esprit et la générosité dans l'effort, les poulains de Michel Dissuyer pourraient arracher leur première victoire à une CAN, même si l'adversaire en face est le grand favori. Bien que le Ghana semble supérieur sur le papier, le Bénin a quand même des arguments à faire valoir selon quelques confrères de la presse sportive béninoise.
La première raison de mon optimisme, c'est cette dernière victoire qu'on a eu face au Ghana dans le cadre des éliminatoires de la CAN de 2010, où le Bénin avait réussi à prendre les 3 points à domicile face au Black Star déjà à l'époque.
Les écureuils du Bénin peuvent compter aussi sur le collectif qui a prévalu lors des éliminatoires de cette CAN et fait un très bon match. Maintenant, il faut dire ces écureuils-là peuvent aussi surfer sur le problème de Capitana qui a secoué un peu la tanière ghanéenne et créé la surprise à Ismaïlia.
Ils doivent toujours se baser sur leur collectif parce que c'est l'un des points forts de cette équipe dirigée par Michel Adoucier. Il y a l'état d'esprit, il y a la combativité, la générosité dans l'effort. Si ces 3 ou 4 points sont respectés, je crois qu'on peut attendre à une grande équipe du Bénin face au Ghana.
Les partenaires de Steve Mounier savent désormais jouer les gros. En témoignent leur victoire 1-0 contre l'Algérie lors des éliminatoires. A noter que les deux équipes se sont affrontées 14 fois. La dernière victoire du Bénin remonte en 2009 à Cotonou. Élisée Rompatine, VOA Afrique.
Il y avait 3 matchs au programme hier. Dans le premier qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Sud, les éléphants l'ont emporté 1-0 devant les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud sous 35 degrés et dans un stade vide. Les Ivoiriens nouvelle génération qui n'ont pas montré grand chose ont été sortis de leur torpeur par un but de Jonathan Kodja à la 64e. On écoute l'unique buteur de la rencontre, Jonathan Kodja.
C'est mon rôle d'attaquant. Je sais que j'allais avoir des opportunités. La première, elle a été bien stoppée par le gardien de but. J'aurais pu mieux faire. Finalement, j'ai su marquer en deuxième mi-temps. Donc, je suis vraiment heureux. Je suis content pour mes coéquipiers. On est bien rentré dans la compétition et je pense que aujourd'hui, c'est l'essentiel.
En face, les Sud-Africains le reconnaissent, la mission était compliquée devant les champions d'Afrique 2015.
C'est un match difficile pour nous parce que Côte d'Ivoire, ils sont forts, il y a des bons joueurs, et ils jouent aussi à les grosses équipes. Mais nous, maintenant, on a besoin d'oublier cet match, on concentre pour un match prochain.
Lebo Matiba, attaquant des Bafana Bafana. Toujours hier, l'un des pays novices de la compétition, la Mauritanie, a fait son baptême de feu dans la douleur face au Mali. Dans le groupe E, les Aigles ont été sans pitié devant les Mourabitoun battus 4-1. Sur l'équipe victorieuse de la poule, les Maliens prennent ainsi une confortable avance sur leurs concurrents avec 3 points mais aussi à la différence de but. À l'inverse, la Tunisie a fait une petite entrée dans le tournoi en étant tenue en échec par l'Angola 1-1. Prochain test vendredi face aux Aigles maliens.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la présidentielle en Mauritanie. Mohamed Cheikh Ould Ghazouani a été proclamé vainqueur de l'élection de samedi. D'après la CENI, il a obtenu plus de 52% des voix. Il est donc élu dès le premier tour. Au micro d'Idriss Fall, notre confrère Mohamed Diop nous brosse le portrait du président élu.
Mohamed Ould Ghazouani, il était chef d'état-major de l'armée. C'est également un ami de longue date de Mohamed Ould Abdelaziz. Ils ont cheminé pendant 30 ans ensemble. Ils ont participé dans les deux derniers coups d'État qui ont après amené Ould Abdelaziz au pouvoir. Mohamed Ould Abdelaziz ne pouvait pas briguer un troisième mandat. C'est en ce moment-là qu'il est sorti de l'ombre pour être le candidat du pouvoir. Mais sinon, avant, on ne connaissait pas très bien. C'était quelqu'un qui était très calme, qui ne faisait pas beaucoup d'apparitions en public.
Celui qui est arrivé second aussi, Biramda Abeid, c'est une sorte d'outsider parce qu'il dirigeait le mouvement IRA anti-esclavagiste, même s'il était deuxième aux élections de 2014.
Biram, peut-être, moi je ne dirais pas un outsider parce que Biram a fait un cheminement un petit peu logique, même s'il passe du terrain des droits de l'homme vers le terrain donc politique. Mais il faut rappeler que les dernières élections législatives, il a été élu député alors qu'il était en prison. Donc ça renseignait un petit peu sur sa popularité. Les dernières présidentielles, il était arrivé également deuxième. Biram se positionne comme étant le candidat des Mauritaniens défavorisés et on a vu qu'il a pu remporter le vote à Ouagadougou, une ville où il y a une forte présence ouvrière, mais également tout le long de la frontière sud où il y a une forte présence de la communauté négro-africaine.
Qu'en est-il de l'ancien Premier ministre soutenu par le parti islamiste Tawassoul?
Ça, c'est la grande surprise de cette élection parce que tout le monde l'attendait vraiment à la deuxième position. D'ailleurs, certains pensaient même qu'il allait renvoyer le général au deuxième tour, et ça n'a pas été le cas. Peut-être il a été rattrapé un peu en quelque sorte par son passé parce que il fut deux fois premier ministre sous le régime de Moïse Sidibé Ould-Ahmed Taïa et sous le régime également de la transition.
Mais les gros perdants, ce sont les partis traditionnels.
Les gros perdants, ce sont les partis traditionnels parce que ceux qui sont arrivés premier, deuxième et troisième, ce sont des candidats indépendants. Si nous prenons l'exemple de Mohamed Ould Ghazouani, même s'il est soutenu par le parti présidentiel UPR, il n'a pas la carte de ce parti, donc il était candidat indépendant. Le deuxième qui est Biram Ould Abeid, c'est clair, c'est un candidat indépendant. Et puis de Mohamed Ould Boubacar, qu'on a cité tout à l'heure, il est soutenu par les islamistes de Tawassoul, qui constitue la deuxième force politique du pays, mais pour autant, c'est un candidat indépendant. Le jeune Morsedi qui s'est présenté, lui, il n'a même pas de parti, il est indépendant. Les partis traditionnels ont des difficultés. Récemment, on a vu près de 99 partis politiques n'ont pas eu de bons résultats lors des législatives passées, tombés sous le coup de la loi. Aujourd'hui, il en reste une trentaine.
Mohamed Diop, notre correspondant à Nouakchott.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le 23 juin consacre la Journée internationale des veuves. C'est sur proposition du Gabon que cette journée a été adoptée par l'ONU en 2010. Mais dans ce pays, les conditions des veuves sont loin de s'améliorer, nous dit notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
8 ans après l'instauration de la Journée internationale des veuves, le Gabon peine à devenir un modèle dans la protection des veuves. Simone Messa, vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba.
Le législateur a mis en place l'arsenal juridique pour protéger le conjoint survivant. Mais des pesanteurs sociales, iniques, injustes, persistent. Lorsque les lois ne sont pas méconnues, elles sont tout simplement bafouées. Bien souvent, les personnes spoliées, parce qu'elles sont victimes de sévices, de menaces, de violences physiques ou psychologiques, préfèrent se taire.
Conséquence, la spoliation des veuves persiste et rien ne semble en mesure d'éradiquer ce phénomène. Le témoignage de Félane, épouse Mawamba, veuve depuis 2016.
Pour nous les étrangères, quand le mari décide, ça devient autre chose. Quand mon mari a décédé, la belle famille, ils ont refusé de faire le conseil de famille. Mais grâce aux nouvelles lois qui sont sorties, donc comme il n'y a plus le conseil de famille, mon dossier est passé au tribunal et j'ai eu mes droits. Je suis passée par le tribunal, j'ai eu le procès verbal, j'ai eu tout dans mes papiers. Mais lorsque j'ai déposé mon dossier, arrivé jusqu'à la solde, il n'y a rien jusqu'à présent. Et pourtant, mon mari était un fonctionnaire, il était militaire. Donc là, je ne comprends pas pourquoi.
C'est une situation parmi tant d'autres qui place les tribunaux devant des difficiles arbitrages. Honorine Zébitégué, magistrate.
Les veuves qui abandonnent les maris, les veuves qui abandonnent la femme, etc. Dès que la femme tombe malade, on la prend, va la jeter chez ses parents et vice-versa. Là, nous sommes dans l'indignité successorale. Mais le tribunal n'est pas au quartier. Les associations, il faut qu'on nous saisisse pour donner des renseignements. Si maintenant l'affaire au tribunal, et si les juges n'ont pas la preuve de ce que vous dites, que telle femme frappait son mari, telle femme enfermait son mari dans la maison, faisait ceci, cela, qu'est-ce que le tribunal peut faire? On va s'arrêter seulement aux mots.
Selon les services en charge de la prévoyance sociale au Gabon, près de 1000 plaintes pour spoliation ont été enregistrées entre 2015 et 2018. Libreville, Ismaël Obianzé, VO Afrique.
En République démocratique du Congo, l'épreuve nationale de fin de cycle de l'école secondaire, qui se tient depuis hier, n'a pas pu être organisée à Beni et à Oicha dans le nord-est où sévit l'épidémie d'Ebola. L'épidémie a déjà fait plus de 1500 morts en 10 mois, selon le ministère de la Santé. Eddie Sango a joint à Beni le docteur Patrick Kiyunyo.
Nous n'avons vraiment pas résisté assez de cas dans les écoles, c'est que les reports de l'examen d'État au Grand Nord, c'est-à-dire à Beni, à Oicha, bon, je ne pense pas que ce soit lié à Ebola, peut-être à l'insécurité et au fait que les élèves n'ont pas suivi le calendrier normal comme les autres écoles où la sécurité est assurée dans les autres provinces.
Mais où en est-on aujourd'hui avec cette épidémie?
Nous sommes tous inquiets par rapport à la Lyrie-Évolie l'épidémie, surtout qu'elle reste face dans les zones où elle a commencé. En outre, vous prenez bien la cartographie, vous êtes agent de santé de Mabalako, agent de santé de Beni, agent de santé de Mandurizipa, et même les nouvelles zones de santé comme l'agent de santé de Rampara à Bouya et à Libéré. Donc vous voyez que c'est vraiment une situation qui inquiète. Je pense que au plus haut niveau, surtout au niveau gouvernemental, mais aussi des partenaires du gouvernement, on pourrait prendre les mesures qui s'imposent pour que nous ne nous éternisions pas dans cette épidémie. Elle a beaucoup duré. Je crois qu'il est temps que les mesures importantes soient mises en application pour que on voit comment maîtriser cette épidémie. Sinon, ça nous inquiète aussi pendant que nous voyons que assez de morts et assez de cas déjà enregistrés, plus de 2000 décès, c'est déjà trop.
Mais qu'est-ce qui explique justement que cette épidémie, pour cette fois, puisse durer? C'est la plus longue épidémie d'Ebola que la RDC connaît.
La grande problématique de cette épidémie au Grand Nord, c'est une zone où la population est mobile et à part cette mobilité, c'est qu'il y a un problème de l'insécurité. Donc, Ebola qui vient se greffer à un problème chronique d'insécurité dans des bureaux, c'est que la surveillance a du mal parfois à poser des actions de santé publique dans les zones insécures. Je crois par exemple la zone de santé de Mangourou-Jipa où vous avez même du mal à accéder au contact à haut risque, même si vous pensez qu'il y a un contact à haut risque qui développe la maladie, vous avez du mal à accéder parce que les praticabilités des routes, il faut marcher pendant plus de 6 heures à pied pour ceux qui sont habitués, et puis c'est des zones où les groupes armés, les groupes de défense, se développent, ils utilisent de ces côtés-là, et donc c'est c'est vraiment compliqué.
Le docteur Patrick Kiyunuyu, médecin et analyste de la situation d'Ebola à Béni.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Félix était étudiant dans une université du Brésil lorsqu'il a décidé de tenter l'impossible, c'est-à-dire traverser l'Amérique centrale pour se rendre aux États-Unis, son pays de rêve. Mais pour le jeune homme de 24 ans, eh bien, ce rêve a ressemblé beaucoup plus à un cauchemar. Arzuma Compaoré lui a tendu son micro dans le cadre de notre série intitulée « Témoignages d'immigrants ».
Pour quitter le Brésil, il faut prendre l'avion ou le bus. À partir de Rio Branco, il faut payer les taxis pour arriver au Pérou. Il faut payer les gens, les passeurs. Il y a deux groupes de gens. Il y a d'autres personnes qui sortent du Brésil, il y a d'autres personnes qui viennent directement de l'Afrique. Et ils préfèrent prendre l'avion parce qu'il y a les free visas, le visa gratuit au niveau de l'Équateur. Beaucoup de gens, ils descendent là-bas, ils viennent là-bas. On se croise, beaucoup de gens se croisent à partir de la Colombie. De tout le monde se croise là-bas, vous commencez. La Colombie, pour traverser Turbo vers Capo Ghana. Il faut prendre quoi, les bateaux, genre canot rapide. Il faut d'abord passer à l'immigration colombienne. Et quand vous avez les laissez-passer colombiens, vous allez payer 35 dollars pour traverser dans ce bateau. Maintenant, quand vous n'avez pas les papiers d'immigration, vous serez obligé de payer 250 dollars pour traverser. Maintenant, quand vous traversez, vous allez faire pendant 4 heures du temps dans l'océan. C'est vraiment dangereux. Je vis des moments en train de pleurer, en train de prier. Quand le bateau bouge, il prie. Okay, donc les gens veulent perdre la mort. Quand vous traversez ça, vous allez maintenant traverser la forêt. On appelle ça le jungle. Le jungle est des Dariens. Je veux des Canéens, des Camerounais. Parce qu'eux, ils ont l'habitude de marcher seuls. Ils font 3 jours, 4 jours en forêt. Maintenant, les gens qui amènent des familles, il y a d'autres qui font 10 semaines, 10 jours, 8 jours. Ça dépend. Et quand vous passez la forêt, donc, vous arrivez au Panama. Le Panama nous a gardé pendant presque 1 mois et demi. On dormait dans des conditions difficiles. On vous recevait dans des camps de militaires. Nicaragua, c'est le calvaire encore. Il faut payer 150 dollars à l'immigration pour passer.
Comment vous arrivez au Nicaragua?
Quand vous arrivez dans toutes les frontières, il y a toujours des gens, on appelle les passeurs. Ils viennent là, ils vous proposent. Non, donnez 1 dollar, 5 dollars, 10 dollars, ça dépend. Quand vous arrivez à Tapachula, calvaire encore. Tapachula, c'est la frontière Mexique-Guatemala. Il y a un état là, l'état de Chiapas. La ville, c'est Tapachula. Là-bas, vous restez dehors, même pendant 1 mois. Le jour où tu auras la chance, tu entres.
Tu rentres où?
À l'immigration mexicaine. Il y a des gens qui ont fait 1 mois dehors.
Et quand ils sont dehors pendant ce temps, comment ils font pour vivre?
Il y a des gens qui ont de l'argent. Je peux donner l'exemple des Camerounais, l'Ouest Afrique. Ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils se préparent. Il y avait une rivière. Si vous traversez seulement la rivière, donc vous êtes déjà aux États-Unis. C'est comme s'ils ont mis des radars dans l'eau. Vous allez voir les patrouilles américaines, Border Patrol. Ils arrivent avec même les sauvetages.
On est aux États-Unis en ce moment.
On libère les gens qui sont en famille, on laisse les gens qui sont célibataires. Donc je suis très clair, je dis non, aux États-Unis, moi, c'est un pays où j'ai vu des gens réaliser leurs rêves. Des gens qui avaient rien du tout, mais ils avaient des objectifs, ils a réussi. Parce que moi, j'étais au Brésil, j'avais une bourse d'études, je pouvais continuer à étudier. Mais je me suis dit non, le monde lusophone, c'est comme si je n'étais pas à l'aise. Pour cela, je dis non, que je pars aux États-Unis. Tocomo, c'est un pays où, quand une personne te dit que non, il est pauvre, je me dis peut-être il est négligent. Ou peut-être il n'a pas des idées. Moi, personnellement, j'ai des idées. Comment exploiter les bois? On exploitait. Mais moi-même, je voyais qu'on pouvait gagner plus d'argent, mais on n'avait pas assez de moyens. Imagine-moi maintenant, aujourd'hui, si moi-même j'achète des genres de camions, j'achète ça, je descends avec ça en Afrique. Je descends avec tous les matériels possibles. Je vais faire de l'argent. Je vais chercher moi-même l'argent.
C'était Félix qui répondait aux questions d'Arzuma Compaoré dans le cadre de notre série intitulée « Témoignages d'immigrants ». Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.